merci d'être toujours présent et attentif.
Je vous laisse la parole.
On va pouvoir commencer. Donc, j'ai pour mission de vous parler de l'actualité sur la recherche thérapeutique d'un maladie d'Alzheimer. Je suis content qu'ils recherchent le mot thérapeutique, mais néanmoins, c'est peut-être abusif, puisque je ne vais couvrir qu'un des aspects qui sont l'approche médicale classique, disons, médicamenteuse. Et ça ne préjuge pas de l'importance dont vous êtes convaincu maintenant, je pense, de toutes les autres approches développées par Mme Hergis et beaucoup d'autres, et la prévention. Voilà, donc je vais repérer les boutons, c'est ça. Donc je vais faire ça en trois temps. Je vais quand même passer un tout petit peu de temps sur l'historique, parce que vous êtes bien conscient que les racines c'est important et l'histoire c'est important, donc on va rapidement évoquer ça. Ça mettra bien les choses en place pour voir le chemin qui a été parcouru. Donc d'abord hier, et je vous dirai comment c'était une maladie qualifiée par l'endopathologie et comment après, aujourd'hui, on est arrivé à une définition plus pragmatique et qui peut-être permettre l'arrivée de médicaments actifs. Et enfin, j'essaierai rapidement de vous brosser un peu un tableau des perspectives, c'est-à-dire le travail qui reste à faire, parce que même si on a marqué des points, la bataille n'est pas encore tout à fait gagnée, c'est le moins qu'on puisse dire, mais on est en bonne voie. Hier, une maladie identifiée par l'INAPAT. Alors, ces personnages que je fais entrer en scène, là, le premier, c'est Alois Alzheimer, qui a décrit l'histoire d'une patiente qu'il a connue à 52 ans, qui est morte, je crois, 5 ans plus tard. Elle était toujours hébergée dans la clinique où il l'avait vue. Et il a examiné avec soin son cerveau. Et il a apporté un point important, c'est-à-dire qu'il a mis en relation sa pathologie, qui était une pathologie démentielle. Elle avait perdu l'esprit, elle avait perdu son autonomie, perdu sa capacité d'écrire, de communiquer, etc. Et il a mis ça en relation avec des anomalies particulières dans son cerveau. Un autre personnage qu'on a un peu oublié, mais c'est peut-être parce que la maladie dont il à laquelle il s'intéresse porte sur la mémoire, il est passé un peu dans la trappe de l'histoire, c'est le docteur, j'ai oublié son nom, Oscar Fischer. Oscar Fischer, qui finalement a décrit quelque chose qui est beaucoup plus proche de la maladie d'Alzheimer telle qu'on l'a définie aujourd'hui, même si elle ne porte pas son nom, parce qu'il a décrit plusieurs patients âgés, plus de 65 ans, et il a décrit ces plaques qu'il a dessinées là, qu'il voyait au microscope, et qu'on appelle plaques amyloïdes, plaques séniles à l'époque, plaques amyloïdes aujourd'hui. Vous êtes des familiers du vocabulaire, je ne vais pas m'en priver de jargonner, parce qu'on peut difficilement l'éviter, mais j'essaierai de vous expliquer pas à pas les mots que j'emploie. Alois Alzheimer lui avait décrit d'autres anomalies qui sont coexistantes dans la maladie d'Alzheimer et qui sont ces anomalies de la protéine tau, les dégénérescences neurofibrillaires. Je reprends ce petit schéma. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on voit quand on coupe le cerveau? Alors, c'est une coupe parallèle au front, à frontal, où on voit un cerveau normal à gauche, un cerveau pathologique à droite. Cerveau normal, en effet, qui est bien plein d'activités, plein de cellules opérationnelles, plein de tissus opérationnels, et l'autre, comme vous le voyez à droite, qui a beaucoup de zones vides parce que les neurones ont été détruits. Des neurones ont été détruits. Vous avez en bas l'hippocampe, centre de la mémoire, on vous l'a dit, de côté les aires associatives qui permettent de réaliser des opérations complexes en intégrant plusieurs parties du cerveau, telles que le langage, les praxis, vous êtes familier de tout ce vocabulaire, et les gnosies. Je ne reviens pas sur cette sémiologie très bien décrite par le professeur de Toffol. Au microscope, qu'est-ce qu'on voit? Donc, encore pareil, à gauche, un cerveau normal, à droite, schématisé, un cerveau pathologique. Vous avez en violet des neurones, ces cellules qui sont le support de la communication et donc de l'activité cognitive de notre cerveau, avec deux protéines normales, mais qui, à cause d'un bug dont on ignore encore beaucoup, deviennent pathologiques. La protéine tau d'abord, alors tau c'est pas la lettre grecque, ça veut dire tubuline associated unit. C'est une protéine qui consolide en fait le squelette du neurone et lui permet de fonctionner correctement. Et cette protéine, pour une raison qu'on ne connaît pas tout à fait, reçoit un excès de phosphore et se vrille et s'agglomère. Elle forme ce qu'on appelle ces dégénérescences neurofibrillaires. L'autre protéine, la protéine bêta-amyloïde, est un résidu en fait de la coupure d'une protéine qui est située dans la membrane avec une partie à l'extérieur. Cette partie à l'extérieur de la membrane du neurone est coupée à un mauvais endroit et crée ce résidu peptide bêta-amyloïde qui a la propriété lui aussi de se coller les uns aux autres et de faire un amas, qu'on appelle amyloïde parce que c'est la description qui en a été donnée, qui forme ces plaques autrefois appelées séniles, autrefois amyloïdes. Et ces deux anomalies caractérisent sur le plan histopathologique la maladie d'Alzheimer, association de dégénérescence neurofibrillaire due à une protéine tau anormalement phosphorylée, agglomération de plaques séniles provoquées par l'accollement, l'agglutination de peptides bêta-amyloïdes. C'est ça qui a conduit à considérer qu'effectivement, la maladie d'Alzheimer couvre à la fois des états précoces et des états tardifs, plus classiques. Et finalement, Alzheimer avait décrit un cas très particulier d'une maladie qui couvre beaucoup plus les sujets âgés que les sujets jeunes. On a donc éprouvé le besoin, beaucoup plus tardivement, en 1984, de synthétiser tout ça et d'arriver à des critères diagnostiques. Critères diagnostiques qui sont importants pour faire un diagnostic dans la vie courante, enfin dans la vie médicale, mais aussi pour conduire des essais. Des essais cliniques, il faut qu'on ait des populations bien définies et homogènes. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que les conférences de consensus de l'époque entre des spécialistes avec ces institutions qui existaient, on définit quatre catégories. Il y en a deux qui sont intéressantes, en fait. C'est les deux premières. La maladie d'Alzheimer certaine, ce qu'il faut remarquer, c'est qu'elle n'était caractérisée qu'à l'examen du cerveau. Pas très pragmatique, vous reviendrez pour mener des études ou pour soigner des malades, parce que l'examen du cerveau, ça suppose soit qu'on ait récupéré le cerveau chez un patient qui ne s'en servait plus, et pour cause, parce qu'il était mort, ou on fait une biopsie. On ne va pas s'amuser à faire une biopsie pour une maladie qu'on ne sait pas traiter, pour faire un diagnostic qui ne servira à rien. Donc, c'était un diagnostic assez, un critère assez théorique, et c'était utile dans des cohortes où on fait des études post-mortem pour voir un petit peu reconstituer des histoires de patients. Mais ce n'est pas un critère de recherche. Et on fonctionnait finalement avec un diagnostic de probabilité. On diagnostiquait la maladie d'Alzheimer probable parce qu'on avait une histoire compatible, donc une histoire d'installation progressive avec ce trouble de la mémoire, avec ces troubles de tout ce qu'on a décrit, le trouble du langage, les troubles de la coordination des gestes, les troubles de la reconnaissance. Qu'on avait plusieurs domaines touchés, que c'était relativement tardif et qu'il n'y avait surtout pas d'autres causes évidentes. Et donc c'était un diagnostic un peu d'élimination. Et sont arrivés les biomarqueurs. Biomarqueurs qui vont permettre d'arriver sur un malade que vous avez en face de vous comme médecin, à un diagnostic de quasi-certitude qui rejoint la certitude qu'on avait à l'examen du cerveau. Donc on peut s'abstenir de cet examen de cerveau, bien sûr, qui n'est de toute façon pas faisable, et on peut faire le diagnostic du vivant du malade, ce qui permet d'avoir des cohortes et des essais thérapeutiques menés sur les bons patients. On sait a posteriori qu'autrefois, quand on a fait les premiers essais de traitement, on incluait probablement 30% de patients qui n'avaient pas la maladie d'Alzheimer. On sait aujourd'hui pourquoi, c'est qu'en fait, il y a pas mal de maladies du spectre des maladies neurocognitives qui mimiquent la maladie d'Alzheimer, qui sont très proches, mais qui, en fait, sont des maladies tout à fait différentes qui impliquent d'autres protéines. Maladie à corps de Lévis, c'est une protéine qu'on appelle alpha-synucléine, maladie du protéine TDP43. Il y a tout un spectre comme ça qui n'est pas concerné par l'amyloïde, donc qui n'ont pas la maladie d'Alzheimer. Mais c'est juste pour insister sur le fait que on avait ces erreurs diagnostiques qui ne permettaient pas vraiment de mettre en évidence l'effet d'un traitement qu'on pouvait essayer. Qu'est-ce qu'un biomarqueur? Puisque j'ai cité ce nom, il faut peut-être que je le définisse un petit peu. Qu'est-ce que c'est qu'un biomarqueur? Vous le savez tous parce que régulièrement, on vous soumet à des mesures qui sont des mesures de marqueurs biologiques d'une activité normale ou d'une pathologie. On vous fait une mesure de pression artérielle, c'est un biomarqueur, c'est quelque chose qu'on mesure et qui reflète un fonctionnement de votre organisme. On fait une glycémie, on vous fait une cholestérolémie, on vous fait un dosage d'hormones thyroïdiennes, ce sont des biomarqueurs. On recherche soit à poser un diagnostic, soit à détecter des signes précoces d'une maladie, soit à surveiller un traitement hormone thyroïdienne, on va surveiller que vous êtes dans la bonne dose de TSH. Et on peut enfin cibler des groupes spécifiques de personnes sur lesquelles on va pouvoir tester un médicament. Les biomarqueurs pour la maladie d'Alzheimer, quels sont-ils? Il y a des biomarqueurs d'imagerie. Je crois que le professeur de Toffol vous a bien présenté ces images. D'abord, on a à l'IRM l'imagerie qui permet de voir ce cerveau atrophique. Au départ, on a l'atrophie de l'hippocampe à la base du cerveau, à l'intérieur, cette zone de la mémoire. Ça commence souvent par là. On aura aussi ce qu'on appelle le PET scan. Le PET scan, ce sont des examens d'une caméra à positon, d'où le P, qui permettent d'observer des produits qu'on fabrique, qui sont radioactifs, qui donc créent un signal à la caméra et qui vont s'agglutiner, se coller aux protéines pathologiques. On a commencé par savoir faire des PET scans avec l'amylose, qui se fixe à la protéine bêta-amyloïde, et aux plaques, donc on visualise les plaques. On sait maintenant aussi faire des PET scans pour la protéine tau. En bas, vous avez les images du PET scan avec un marqueur de la protéine amyloïde. Vous voyez de gauche à droite un malade sain, à droite, le malade très malade, et entre les deux, vous avez tous les stades intermédiaires, avec petit à petit le cerveau qui s'allume avec des zones rouges qui témoignent de l'existence de plaques. Donc on peut vraiment, du vivant du malade, avoir ce reflet à l'imagerie de la pathologie qui se développe. L'autre marqueur très important, c'est la biochimie. Je crois qu'on vous a déjà dit qu'on peut faire des ponctions lombaires. Ponctions lombaires qui ont l'avantage d'accéder à un liquide très proche du cerveau et où donc on peut assez facilement, taux relatif, doser des marqueurs qui reflètent la pathologie amyloïde ou la pathologie tau. Il y a aussi d'autres marqueurs. Et en effet, on est en train de développer, c'est les équipes suédoises qui sont très en pointe là-dessus et qui ont fait un travail remarquable, pas eux seuls, mais enfin ils ont été vraiment en pointe, et arrivent à mesurer des doses infinitésimales du produit qu'on peut donc doser dans une simple prise de sang. C'est l'équivalent de doser un dé à coudre dans une piscine, hein. C'est vraiment des choses absolument étonnantes. Ça ouvre évidemment la porte à des dépistages beaucoup plus faciles, puisqu'on aura un diagnostic plus facile, puisqu'on n'aura pas à faire des ponctions lombaires, ce qui est un geste en général assez peu apprécié des patients. Vous avez vu cette slide, je la remets parce qu'elle est importante à plusieurs titres. Elle est importante déjà pour dire que, comme je vous l'ai dit, on peut, grâce aux marqueurs, cibler les bons patients. On avait donc cette période où on avait fait des essais thérapeutiques sur des patients dont tous n'étaient pas atteints, ce qui diluait, si vous voulez, la chance d'observer un effet. Elle est importante aussi parce que on a découvert qu'on pouvait et qu'on devait traiter les patients au bon moment. Si vous êtes sur un patient qui a déjà un cerveau atrophique, vous aurez beau stopper la maladie, ça n'a pas grand intérêt, parce qu'il est déjà malade et vous allez permettre la survie de quelqu'un qui est déjà mal. Et il ne récupérera pas, on ne sait pas faire repousser des neurones. Donc il faut stopper la maladie. Mais stopper la maladie, ça n'a d'intérêt que si on est tôt dans la maladie. J'ai oublié de vous dire, évidemment, que là je parle de médicaments qui visent à arrêter ou ralentir la maladie. Des médicaments disease modifier, comme disent les Américains, des médicaments donc qui vont agir sur l'histoire de la maladie, sur sa progression. Il y a aussi des traitements symptomatiques, je n'en parle pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution sur ce plan-là. On vit toujours avec des médicaments, vous avez peut-être ça en tête, la rivastigmine, la donépezil. Rivastigmine, c'est les patchs d'Excelon, enfin voilà. Bon, il y a des médicaments qui visent à stimuler un petit peu ce qui reste de fonction cognitive, des médicaments qui cherchent aussi à agir sur les troubles de comportement dont on vous a beaucoup parlé. Mais ce n'est pas là qu'est le cœur de la recherche aujourd'hui. Le GARAL, c'est vraiment d'arriver à avoir des médicaments qui vont agir sur la maladie. Le graphe du bas, c'est cette histoire des biomarqueurs avec leur apparition progressive et cette succession, bêta-amyloïde, altération de la fonction synaptique, accumulation de protéines tau-pathologiques, atrophie cérébrale, puis la cascade des signes cliniques qui arrive. Cascade, le mot est lâché, c'est ce qu'on a appelé la cascade amyloïde. Elle préjuge que l'idée, comme le témoigne l'historique de ces biomarqueurs, tout commence par l'amyloïde. Il y a des arguments autres que celui-là, qui sont essentiellement des arguments génétiques, c'est que les formes familiales, rares, 1%, mais les vraies formes familiales, héréditaires, 1 sur 2 dans la génération suivant un malade, sont liées à des anomalies chromosomiques qui portent sur la synthèse de la protéine amyloïde. Donc on a vraiment un argument fort là pour dire qu'effectivement, en tout cas dans ces formes familiales, c'est vraiment au cœur de la pathologie et à l'initiation de la pathologie. Dans les formes sporadiques, c'est peut-être moins vrai, encore que, toujours pour des raisons de génétiques, on s'est aperçu que les facteurs de risque génétiques, pas les facteurs déclenchants, mais ceux qui augmentent la propension, le risque d'exposition à la maladie, certains d'entre eux jouent aussi sur cette protéine. Donc vraiment, c'est une protéine qui est au cœur de la pathologie, même s'il y a des arguments pour dire qu'il y a aussi d'autres facteurs qui vont entrer en jeu. Enfin, j'aime bien l'image de l'incendie. Vous avez un incendie quand ça commence dans la forêt landaise, vous avez quelques aiguilles de pin qui brûlent. Excusez-moi, j'ai moins d'image ici parce que je ne suis pas familier de votre flore. Ensuite, les pins se mettent à brûler. Enfin, vous avez quand même des granges qui se mettent à flamber aussi, des maisons, peut-être des réservoirs de gaz ou de pétrole. Et à ce moment-là, ça devient incontrôlable. Il y a une propagation physique de l'espace, mais aussi une propagation dans la nature de la pathologie. Au départ, vous avez peut-être cette protéine amyloïde, cette protéine tau, qui vont détruire quelques neurones. Et après, vous allez avoir une réaction. Vous allez avoir d'autres choses, d'autres processus qui se mettent en marche. C'est l'inflammation. Il y a une cascade comme ça d'événements qui vont devenir absolument incontrôlables à mesure qu'on laisse les choses s'abîmer. Donc, vraiment, agir tôt, c'est se donner les meilleures chances de succès. Donc, j'ai représenté là la flèche, la cascade amyloïde. Les neurologues sont quelquefois poétiques, poètes. L'idée de cette cible amyloïde, dont je vous ai présenté les arguments pourquoi elle était une cible favorite, c'est d'aller bloquer ce dépôt amyloïde. Et on espère qu'en bloquant le dépôt amyloïde, on va couper aussi la progression des autres pathologies, donc la progression in fine de la clinique, de la progression de la pathologie clinique, c'est ce qui nous intéresse. Donc on va avoir un plateau. On ne restaure pas, on n'espère pas restaurer des fonctions, mais on espère au moins garder les choses en l'état et le plus tôt possible. Donc traiter tôt et cibler cette amyloïde. Comment le fait-on? Alors comme ce sont les médicaments qu'on va utiliser, et on conteste en tout cas, sont des anticorps. Anticorps de synthèse, produits par biologie. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on fait en cancérologie aujourd'hui, la thérapie immunologique, immunothérapie. Donc, on va devoir les administrer en perfusion, et ils vont passer dans le cerveau, plus ou moins bien, parce qu'il y a quand même une barrière sans cerveau qui est efficace, mais enfin, une partie va passer, va se lier au dépôt protéine amyloïde, va stimuler une réaction comme un anticorps dirigé contre une bactérie, une réaction des cellules immunitaires qui sont présentes dans le cerveau, ça s'appelle la microglie, qui va aller boulotter la plaque et donc arrêter le processus tel qu'on le conçoit. Le processus, la plaque amyloïde va disparaître et on pense que la suite va s'en suivre, arrête la progression de la maladie ou en tout cas ralentissement de la progression de la maladie. On a su assez vite qu'on y arrivait, en ce sens qu'effectivement, avec ces trois MAB, ces anticorps monoclonal antibody, c'est pour ça que ça s'appelle tous MAB, anticorps monoclonaux de synthèse, on arrivait en effet à réduire les courbes se divergent, vous voyez, je ne vous détaille pas les choses, enfin, le placebo est en bleu et le traitement en rouge là. On arrive à réduire le dépôt de protéines amyloïdes, de peptides amyloïdes, et à réduire les plaques existantes. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours vu d'efficacité clinique, au départ en tout cas, en partie parce qu'effectivement, on incluait des patients qui n'avaient pas forcément tous le diagnostic, et en partie aussi parce qu'au départ, on traitait encore des stades démentiels, précoces, certes, mais bon, pas tout à fait assez peut-être pour montrer un effet, puisque comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'autres facteurs qui se mettent en route et que le cerveau abîmé, parfois, il va moins répondre à cette efficacité. Mais les bonnes nouvelles sont enfin en train d'arriver. C'est cette publication sur un produit qui s'appelle le lecanemab, publication dans le New England Journal of Medicine, c'est vraiment un peu le top du top de ce qu'on peut faire en médecine. Ce lecanemab, il a montré qu'il était efficace. Je vous ai mis qu'une courbe, il y a beaucoup d'autres critères, mais une courbe qui montre que les courbes divergent. La courbe du haut, c'est celle de la progression de la maladie chez des patients traités par le produit, alors que la courbe du bas, c'est celle chez les patients qui sont traités par placebo. Et vous voyez qu'il y a une divergence des courbes. Les patients traités par le produit restent mieux moins mal, disons, que les patients sous placebo. C'est un essai qui a été mené sur 18 mois, et c'est un essai, ce qu'il faut aussi, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que l'échelle utilisée est une échelle multidimensionnelle. Elle ne se contente pas de juger les choses sur des tests. Les tests, c'est bien, mais on ne cherche pas à traiter les tests, on cherche à traiter les patients. Donc on cherche à traiter leur habilité à leur autonomie, la charge des aidants, leur capacité à maintenir leur hobby, à éventuellement faire des courses, sortir, à être actif chez eux, être autonome dans leur toilette. Enfin, voilà, tous ces aspects-là sont intégrés dans une échelle synthétique. Il y a aussi des échelles plus spécifiques qui ont été utilisées, et tout ça va dans le bon sens, ce qui montre quand même que même si le résultat qui est de l'ordre de 30% de ralentissement n'est pas encore le résultat qu'on voudrait obtenir, c'est un très bon début, et l'espoir, c'est que si on poursuit le traitement, on aura un effet qui va s'amplifier. L'écart entre les courses est s'amplifiant. Ce produit donc, pardon, je reviens en arrière, excusez-moi. Ce produit a été approuvé aux États-Unis, c'est pour ça qu'il a un nom commercial, hein, l'EcoMB. Il a été approuvé l'été dernier. Bon, c'est un bon succès. Qu'est-ce qui va se passer en Europe? On peut supposer que le dossier a été déposé auprès des autorités européennes, c'est vrai que c'est des approbations européennes pour ce type de produit. Je pense qu'on aura une réponse en début d'année. Après la commercialisation en France, c'est plus incertain, parce qu'il y a des négociations de prix qui sont quelquefois longues et compliquées. On peut imaginer qu'il y aura une mise à disposition avant même le remboursement, sous la forme d'essai contrôlé. Enfin, il pourra se passer quelque chose. Et je pense que donc, première moitié de 2024, on devrait avoir un accès à ces médicaments. Alors, ce n'est pas des médicaments, un médicament qui sera pour tout le monde. Comme je vous l'ai dit, c'est pour les formes précoces. Et il y aura des contraintes particulières. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi un deuxième produit qui est sur la trace du précédent. C'est le donanimab, c'est le laboratoire Eli Lilly, publication en août cet été, et dossier déposé à la FDA, et ce serait très étonnant qu'il n'ait pas l'approbation. On a un résultat du même ordre, hein. Un écart de 30%, 36%. On ne peut pas comparer d'une étude à l'autre, il n'y a pas eu d'étude face à face, hein. Et comme les produits, les patients inclus ne sont pas tout à fait comparables, les échelles ne sont pas exactement les mêmes, bon, on ne peut pas se faire d'idée précise si l'un est meilleur que l'autre, mais c'est du même ordre de grandeur, ce qui d'ailleurs valide un petit peu les résultats. Hein. Ce n'est probablement pas l'effet du hasard si on voit deux fois un effet du même ordre avec le même type de molécule. Malheureusement, tout se paye. Il n'y a pas de produit efficace sans effet indésirable. Alors, effet indésirable, on les appelle ARIA. ARIA, A-R-I-E-A. Pourquoi? C'est Amyloid Related Imaging Abnormalities. C'est donc, comme le nom l'indique, que c'est des anomalies qu'on voit à l'imagerie, à l'IRM. Parce que c'est des produits qu'on administre et qu'on surveille à l'IRM. Parce que l'amyloïde, quand elle est bouffée par la microglie, comme je vous l'ai raconté, il peut se créer une réaction inflammatoire. Si c'est près d'un vaisseau, ça peut créer des petits saignements. Chose qu'on voit à l'imagerie. Si on le voit à l'imagerie, on est prudent, on freine un peu la dose, on suspend, on voit ce qui se passe et ça se passe bien. Dans quelques cas, malheureusement, ça se passe moins bien. Il peut y avoir des séquelles. Il peut même y avoir quelques décès. Ça veut dire que ces produits sont vraiment à utiliser avec précaution, seront à utiliser avec précaution dans des centres spécialisés, avec une surveillance, et qu'il faudra probablement affiner les conditions de prescription, éviter quelques patients à risque parce qu'ils ont déjà eu des saignements, à risque parce qu'on voit des traces de saignements à leur IRM, à risque parce qu'ils ont peut-être quelques gènes justement particuliers qui peut-être augmentent les risques de saignements ou de complications, etc., etc. Donc, des produits qui ne sont pas tout à fait banals et qu'il faudra utiliser dans des cadres très précis. Mais encore une fois, on attaque l'amyloïde, on a un résultat. Donc, cette piste amyloïde qui a été pas mal contestée à certaines époques parce qu'il y avait tellement d'accumulation d'échecs qu'on pouvait presque désespérer, est maintenant confirmée. Ça fait quelque chose, pas tout, mais ça fait quelque chose. Les effets sont faibles. Comme je vous l'ai dit, ils sont visibles sur une quantité de paramètres. Donc, ça valide un petit peu l'approche. Ça montre qu'ils sont signifiants, qu'ils ont un sens clinique. Je vous ai parlé de l'approbation en Europe et de la mise à disposition en France, probablement, j'espère, première moitié 2024. Je croise les doigts. Et ça va nécessiter beaucoup de réflexions sur l'organisation. Aujourd'hui, on n'est pas capable de faire cette surveillance et de recruter les patients et de les suivre. Enfin, on n'est pas capable. Il faut mettre en place le système. Il faudra bien sûr discuter le traitement avec le patient, avec sa famille. Je vous ai parlé des possibles contre-indications du produit qu'il va falloir clarifier. La durée de traitement. Un des laboratoires a fait quelque chose d'assez intelligent, c'est le deuxième, le Danemab. Ils ont, une fois que la plaque était nettoyée, ils arrêtaient le traitement. Et l'espoir, c'est que l'effet non seulement va se maintenir, mais que comme coupe la cascade, il faut en fait attendre pour avoir tout le bénéfice. Et ce n'est pas une approche complètement idiote. Peut-être qu'on pourra se contenter d'un traitement court et peut-être reprendre un an, deux ans plus tard. Mais il y a beaucoup de travail encore pour affiner un petit peu l'utilisation de ces produits. On peut aussi se dire que si on maintient plus longtemps, on aura plus d'effet. C'est aussi un espoir. Encore beaucoup de questions qu'il faudra affiner. Et bien sûr, il faudra une surveillance IRM et gérer ces fameuses ARIA qui posent quand même un problème. Quelles sont les perspectives, donc ? Perspectives, d'abord, je reviens sur cette cascade amyloïde. La cascade amyloïde, donc, c'est l'idée que lésion amyloïde de départ, avec un processus pathologique qui est quelquefois génétique, mais pas seulement, et on ne sait pas tout à fait clair qu'est-ce qui cause ça, d'où troubles cognitifs, maladies et mort neuronale et troubles. Mais ce schéma simpliste est vraiment simpliste et il est beaucoup plus compliqué que ça en réalité. On sait que les lésions tôt elles-mêmes sont à l'origine de démence. Il y a beaucoup de démences, démences frontotemporales, etc., qui n'ont pas d'amyloïde. Elles sont liées juste à des maladies de la protéine tôt. Donc la protéine tôt en elle-même, elle est toxique. Elle n'a pas besoin de l'amyloïde pour se déclencher. Il y a d'autres causes. Et peut-être qu'elle a sûrement une toxicité directe. Il y a d'autres facteurs qui interviennent. Je vous ai parlé de l'inflammation. De plus en plus, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe dans le cerveau alzheimérien, notamment au niveau de la microglie. On s'y intéresse d'autant plus que... Enfin, voilà, c'est un élément très important, et là encore, il y a des raisons génétiques. Je ne vais pas bien tarder, mais enfin, dans cette fameuse étude dont le docteur Delogues a déjà parlé, cette étude lilloise, enfin, consortium européen, mais dirigée par l'équipe de Lille, les principaux clignotants qui s'allumaient sur des gènes, c'était amyloïde et microglie. Donc il y a vraiment une piste inflammatoire qu'il faut aussi explorer. L'anomalie de la barrière sans cerveau, hein, le passage peut-être dans le cerveau de molécules qui n'ont rien à y faire et qui ne sont pas très saines pour le cerveau à mesure que cette barrière se dégrade. D'autres facteurs de risque, on pense en particulier par exemple à l'insulinorésistance, au diabète. Hein, y a le diabète... Le cerveau utilise beaucoup de glucose. Il est possible qu'il y ait une mauvaise utilisation du glucose dans le cerveau chez les Alzheimer.
Docteur Janton, donc, je vais vous demander de devoir finir.
Entendu,
vous avez dépassé le temps.
Ah, désolé. J'ai pratiquement fini. Donc, il y a encore du travail pour trouver d'autres traitements. Le taux, on y travaille. C'est encore les balbutiements. Pour l'instant, on est un peu dans l'état où on était il y a 7 ans ou 5 ans. Avec l'amyloïde, ça ne marche pas pour le moment, il faut affiner l'approche, mais il y a un sens à remettre également des anticorps anti-taux qui vont agir sur cette partie de la pathologie que je vous ai décrite. Enfin, on a conduit une étude à la Salpêtrière avec un outil digital. Et la perspective, c'est peut-être de se dire allons chercher les patients à un stade très précoce. Grâce à des outils digitaux de diagnostic qui pourraient être mis à disposition, non pas sur Internet sauvage et de façon incontrôlée, mais au cabinet des médecins, par exemple. Le patient pourrait passer ses tests et s'il y a un signal qui s'allume, on pourrait lui proposer de rentrer dans une filière d'examen pour aller plus loin dans l'investigation en cherchant ces facteurs de risque pour les prévenir. Et s'il a vraiment des premiers signes, s'il a vraiment des facteurs de génétique en plus, on pourra lui proposer un traitement. Cette étude est quand même assez belle parce qu'on avait vraiment agi par référence aux meilleurs critères diagnostiques avec les biomarqueurs et avec des batteries cognitives passées par des neuropsychologues. Et on avait une très bonne corrélation entre le résultat et les tests et la batterie complète. Ce qui veut dire qu'on ne laissait pas trop passer de faux négatifs, de malades qui auraient été malades et qu'on ne repérait pas. Voilà, donc on sait qu'il faut traiter tôt, on possède des marqueurs précoces qui permettent d'envisager, surtout quand on aura les tests sanguins, des diagnostics précoces, la piste amyloïde est confirmée, on aura des produits, il faut continuer la recherche et cette perspective de clinique du risque et des traitements très précoces est en cours de réflexion. Voilà, donc Alzheimer n'est pas KO, mais il a pris un bon coup dans le nez, on l'espère. Et je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, docteur Genton. On a bien compris, Alzheimer n'est pas KO, mais ça ne serait tardé, c'est ça ? Bientôt. Allez, on a espoir. Bon, tout à l'heure, on a parlé un dispositif. Ah oui, j'ai oublié de demander s'il y avait des gens qui avaient des questions, rapidement. Suite à l'intervention du docteur Genton. Pas spécialement ? Oui ? Ah, monsieur Ferreira, bon, non, finalement. Alors. Très rapidement.
Oui,
ah, vous avez déjà
oui,
le micro.
Rapidement.
C'est pas bon ça, c'est pas bon ce micro-là. C'est pas bon. Je sais pas c'est une bonne chose.
Hein. Il est à disposition, donc je l'utilise. Très rapidement, par rapport à ces questions de dépistage précoce que vous évoquiez dans votre présentation, la question que je me pose, quand une maladie, et vous l'avez évoqué dans vos présentations précédentes, coûte à la société 32 milliards d'euros en termes de prise en charge globale, quand on sait qu'il y a plus d'un million de personnes de concernées, versus 1,6 million pour le cancer, quand on sait que le développement de la maladie peut se faire sans signe clinique, en fin de compte, pendant 10-20 ans, et donc au moment où on s'en aperçoit, donc c'est quasiment trop tard, pourquoi il n'y a pas, au même titre que le dépistage du cancer du sein, par exemple, ou du cancer colorectal, de dépistage systématique ? Vous parliez de ponction lombaire tout à l'heure, que beaucoup n'apprécient pas, mais jusqu'à une période récente, le toucher rectal pour le cancer colorectal, personne ne l'appréciait. Enfin, certains peut-être, mais beaucoup de gens ne l'appréciaient pas. Donc je me dis que pourquoi ne pas systématiser en fin de compte avec les éléments que l'on a aujourd'hui un dépistage systématique qui pourrait permettre une prise en charge précoce justement par rapport à ce que vous évoquiez. Et après sur la question de la réserve cognitive que vous évoquiez tout à l'heure professeur, vous évoquiez les questions de stimulation en fin de compte liées au fait que on s'apercevait que le faible niveau d'éducation pouvait conduire à l'apparition de la maladie. Vous me corrigez si je dis bêtise. Hein, et que le faible niveau socio-économique pouvait engendrer, forcément, par corrélation avec le faible niveau d'éducation, engendrer également la maladie. Donc, du coup, on finit par s'apercevoir que c'est une maladie extrêmement discriminatoire, puisqu'on finit par se dire que c'est une maladie de pauvres. Je suis très provocateur en le disant de cette manière-là, et que des gens qui ont une activité intellectuelle intense, avec une stimulation quasi permanente, etc., seraient plus à même, en fin de compte, de s'en sortir vis-à-vis de la maladie que les autres. Voilà. Juste ça.
Alors, je voudrais réagir sur le premier point, donc le diagnostic précoce. Je souscris, hein, c'est ce qu'on essaie. Enfin, c'est une réflexion qui est en cause, parce qu'en route. C'est ce que j'essaie de décrire avec cette clinique du risque. Enfin, ce n'est pas mon idée, hein, c'est l'autre, mais je la reprends à mon compte. Et la ponction lombaire à tout le monde, c'est pas réaliste. Disons-le très nettement, c'est quand même un examen qui nécessite une après-midi à l'hôpital, disons, parce qu'après, on reste à manger, on surveille. C'est pas un geste compliqué, mais il faut quand même qu'il soit déjà défini parce qu'il y a un rationnel. Et puis, quand on aura une prise de sang, la question va se poser davantage. Donc, en effet, c'est une réflexion qu'il faut mettre en place. Ce projet que j'ai évoqué, en fait, il est en réflexion avec l'ARS Île-de-France pour justement voir comment on peut monter un projet pilote pour évaluer la pertinence de cette action. Mais c'est vraiment... dans les limbes, c'est une idée. Il faut vraiment la travailler. On ne peut pas comme ça dire « demain, on fait ça ». Parce qu'il y a des implications énormes de prix, mais comme vous le dites. Alors, quant au prix de la maladie, il faut savoir que pour la maladie d'Alzheimer, je crois, si je ne me trompe pas, que ce coût qui est mis en avant et qui est vrai, il est beaucoup supporté par les familles. Parce que c'est les aidants gratuits, enfin, bénévoles, parce que c'est la fille, la mère, la sœur. Donc, effectivement, il y a un transfert de coûts qui devrait se passer, qui n'est pas évident à régler. Enfin, vous voyez, c'est des réflexions énormes parce que les enjeux sont tellement importants.
Pour prolonger les questions que vous avez posées, aujourd'hui, la recherche dans le monde, c'est d'abord une course contre la montre, comme vous avez compris. Il faut absolument qu'on trouve une réponse thérapeutique et on ne peut pas attendre 80 ans comme le cancer. On a 20 ans devant nous pour trouver une solution. Et la recherche est menée dans deux domaines qui sont liés. C'est le diagnostic précoce et le traitement contre précoce, puisque vous avez compris maintenant, je pense, que quand les symptômes apparaissent, les jeux sont faits. Quand les symptômes apparaissent, la moitié des neurones de l'hippocampe sont détruits. Donc c'est trop tard déjà. Donc il faut pouvoir traiter avant. C'est la raison pour laquelle il y a la recherche sur les biomarqueurs qui permettront de repérer précocement la maladie au stade préclinique. Il faut qu'on puisse le faire à grande échelle et qu'effectivement on puisse un jour, comme on dose le PSA pour la prostate, comme on fait le truc pour le côlon et la radio du sein chez les femmes, eh bien on puisse vers 65 ans faire un prélèvement sanguin et repérer dans la population les 5% des gens qui sont à risque à partir de ce prélèvement pour les suivre de plus près et éventuellement leur donner un traitement. C'est effectivement vers 50 ans. Et peut-être qu'à terme, on aura avec cette pathologie un phénomène assez curieux qui est qu'on aura un traitement préventif avant d'avoir un traitement curatif. Tant qu'on n'aura pas identifié la cause exacte de la maladie, c'est vers ça que l'on va actuellement. Donc ça, c'est une première réponse. La deuxième, votre point, il est réel, parce que effectivement, il y a beaucoup de facteurs de risque qui ont été énumérés, qui sont des facteurs qu'on retrouve plus fréquemment chez les gens qui sont socialement défavorisés, l'hypertension artérielle, la surcharge pondérale, la sédentarité, etc. Mais on a aussi des gens qui sont avec un niveau intellectuel supérieur et qui sont très très seuls. Et ceux-là, ils sont peut-être autant à risque que l'ouvrier agricole qui a une famille nombreuse et unie. D'accord ? Donc, heureusement, tout n'est pas joué dès la naissance avec le niveau socio-culturel et économique de la famille dans laquelle vous naissez. D'accord ? Il y a la possibilité pour chacun de faire changer un peu la donne, et en tout cas dans ce domaine, bien sûr que les données socio-économiques jouent un rôle, et pas simplement dans l'apparition de la maladie, mais aussi dans la prise en charge. Bon, on en est tous très conscients. Je veux dire que ça coûte très cher, le maintien à domicile, en métropole, probablement ici, ça se passe différemment, parce que vous avez plus d'espace, le climat, tout ça, fait que les choses sont peut-être un petit peu plus simples. Mais en métropole, c'est une fortune. Et quand on n'a pas les moyens, ben on s'y met. C'est-à-dire, c'est la famille qui vraiment est soumise à des stress terribles au quotidien. Il y a un mot, je suis psychiatre, donc je suis des jeunes de 20 à 100 ans. Quand ils ont moins de 60 ans, ils viennent me voir pour les problèmes des gens, la dépression et le burn-out au travail. Tout le monde connaît ce mot, burn-out au travail, mais on le connaît depuis 10 ans. Moi, ça fait 30 ans que je soigne des malades d'Alzheimer, et il y a 30 ans, on me parlait déjà de burn-out, mais pour les soignants des malades d'Alzheimer, pour les aidants des Alzheimer. Il y avait des articles sur le burn-out. Vous qui êtes, je crois, d'origine canadienne, vous avez peut-être suivi ça. On parlait du burn-out des soignants, parce que c'est une maladie qui vous carbonise, tellement c'est difficile au quotidien. Quand vous n'avez pas la chance de pouvoir déléguer auprès de professionnels, c'est très difficile, compliqué. Donc oui, il y a des facteurs sociaux qui interviennent. C'est raison de plus pour qu'on se batte pour trouver des